Alpes-Maritimes et des deux départements de la Corse. L'alerte est valable jusqu'à demain matin, 6h. Le tramway de retour à Paris, la première rame du futur tram, a fait son entrée dans la capitale. Pour l'instant, elle est là pour des essais. Le futur tramway des Maréchaux doit être mis en service fin 2006. Dans un instant, on va à la Bourse de Paris.
La Bourse, avec regionjob.com, site internet de recrutement et d'offres d'emploi en région.
Ça baisse à la Bourse, Vincent Bezeau.
Oui, Claire, le CAC 40 qui avait rebondi de 1,84% entre lundi et mercredi est en train de ployer sous les prises de bénéfices puisqu'il abandonne 0,53% à 4 462 points dans des volumes garnis de 2,4 milliards d'euros. L'Euro First 80, l'indice de référence de la zone euro, se contracte pour sa part de 0,31%. Sur le marché des changes, l'euro recule de 0,23%, 1,2423, alors que tomberont à 14h30 aux États-Unis les chiffres hebdomadaires de l'emploi, suivis à 16h, toujours outre-Atlantique, des stocks dégrossistes pour le mois de juillet. Les stocks américains de pétrole seront, eux, connus à 16h30. Sur le marché de l'or à Londres, l'once de métal fin se négocie contre 444,80 $. Le CAC 40 lui abandonne maintenant 0,53% à 4 462 points. La Bourse de Paris, Vincent Bezeau pour France Inter.
Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil.
14h03 sur France Inter, on retrouve comme promis Patrice Gélinet pour 2000 ans d'histoire.
Bonjour, aujourd'hui, l'impératrice Joséphine, deuxième partie. Joséphine était l'art et la grâce. C'est la femme que j'ai le plus aimée. Napoléon à Saint-Hélène. Ans d'histoire. Dans l'église de Rueil, chaque année depuis 200 ans, à la date anniversaire de sa mort, quelques fidèles continuent d'assister à la messe célébrée à la mémoire de Joséphine. Le 2 juin 1814, ils étaient plus de 20 000 à venir saluer la dépouille de cette femme, morte à 51 ans, en prononçant, dit-on, le nom de Napoléon. Malgré leur divorce en 1809, elle était restée fidèle à celui qui avait fait d'elle une impératrice et qui, au moment de sa mort, était en exil à l'île d'Elbe, ignorant encore pendant plusieurs jours la disparition de celle avec laquelle il avait formé un des couples les plus célèbres de l'histoire.
J'ai reçu une lettre de France, de Caulaincourt. Il aurait mieux fait d'écrire directement à votre majesté au lieu de me choisir comme messagère d'une aussi triste nouvelle.
Il n'est rien arrivé à mon fils ou à ma femme. C'est Joséphine.
C'est elle est morte. On a d'abord cru à un refroidissement, mais c'était plus grave, une angine purulente. La pauvre femme a lutté courageusement pendant quelques jours. Et puis les filles ont brûlé le sommeil. Caulaincourt m'écrit que ses derniers mots ont été Bonaparte, le roi de Rome.
Bernard Chevalier, bonjour.
Bonjour.
C'était un extrait du téléfilm Napoléon d'Yves Simonneau. Napoléon apprenant la mort de Joséphine en 1814, alors qu'il était lui-même en exil à l'île d'Elbe, et que lui-même, en mourant plus tard, 7 ans plus tard, à Sainte-Hélène, aurait dit de Joséphine qu'elle avait été la femme qu'il avait le plus aimée, lui qui en avait aimé beaucoup, hein, il faut le reconnaître. Mais c'est vrai qu'il y avait entre lui et Joséphine une complicité, une intimité, nous disions hier, qu'il n'a jamais partagé avec d'autres femmes que Joséphine.
Comme nous le disions également hier, c'est vrai que ce couple s'est élevé ensemble. Ils sont partis quasiment de rien, puisqu'il lui était simple général de la République. Il en a fait une impératrice, elle l'a suivi quasiment jusqu'au bout, et il n'y a que le divorce qui a réussi à les séparer. Et encore, ils ont continué à se voir et à s'écrire jusqu'au dernier moment.
Alors justement, ceux-là, ils sont restés ensemble, ils se sont aimés même après leur divorce, et cela, malgré justement ce qui va les séparer, qui est l'absence d'enfants qui préoccupe ce couple depuis le début, notamment Napoléon, qui est persuadé d'ailleurs que c'est lui qui est stérile. Il faut rappeler que Joséphine avait eu déjà 2 enfants de son premier mariage. Bernard Chevalier.
Joséphine lui a fait croire. C'est vrai qu'elle avait eu 2 enfants. Elle lui disait toujours, moi j'ai des enfants, toi tu n'en as pas. Et pendant un certain temps, je crois qu'au début de leur mariage, elle a vraiment songé, elle a vraiment pensé être enceinte, en dépit de cette soi-disant pseudo-grossesse. Et au fur et à mesure, elle s'est rendue compte que c'était trop tard, elle a été victime d'une aménorrhée précoce, et elle a continué à faire croire à Napoléon que c'était lui qui était stérile.
Alors, parlons de ses enfants, justement, des enfants de Joséphine. Ce qui est extraordinaire, c'est que on a l'impression que Napoléon a reporté, en quelque sorte, sur les enfants de Joséphine, sur Hortense, sur Eugénie, l'affection qu'il n'avait pas avec ses propres enfants, puisqu'il n'en avait pas encore.
Il faut dire que Eugène et Hortense étaient des enfants bien élevés, des enfants qui étaient nés dans l'aristocratie, qui avaient une éducation, qui ont toujours suivi la trajectoire de leur beau-père, au point que Napoléon effectivement a reporté beaucoup d'affection sur eux et les a adoptés. En devenant ses propres enfants, il les a adoptés en 1806. Eugène s'appelant d'ailleurs Eugène Napoléon.
Il va d'ailleurs l'élever dans l'armée, il va jouer un rôle important. Et puis alors Hortense aussi. Hortense, la fille donc du premier mariage de Joséphine avec Alexandre de Beauharnais, Hortense qui va épouser, alors les deux familles vont se réunir, qui va épouser le frère cadet de Napoléon, Louis, et qui du même coup d'ailleurs va devenir reine de Hollande.
C'est un mariage qui a été évidemment arrangé, comme tous les mariages de cette époque. Parfois ils étaient heureux, parfois ils ne l'étaient pas. Et le mariage d'Hortense et de Louis était particulièrement malheureux. Ce mariage étrange, d'ailleurs, a fait de Napoléon le beau-père de sa belle-sœur. Et les enfants qui étaient nés de ce couple étaient à la fois les petits-enfants de Joséphine et les neveux de Napoléon.
Et parmi eux, il y en a un qui sera célèbre.
C'est oui, ce sera le dernier qui deviendra Napoléon III.
Oui.
Mais le frère aîné de Napoléon III, qui est mort en 1807 à l'âge de 5 ans du croup à la haie, avait été considéré par Napoléon comme son héritier.
Alors si Napoléon, comment dirais-je, reporte son affection sur les enfants de Joséphine, en revanche, il y a sa propre famille qui déteste, nous le disions aussi hier, qui déteste Joséphine. Il y a des jalousies terribles. C'est la famille qui annonce à Napoléon, qui pousse Napoléon à divorcer une première fois en 1799 et qui déteste. Pour quelles raisons en réalité, on l'a un peu évoqué hier, mais il y a peut-être aussi des problèmes dynastiques qui allaient se poser. Pour quelles raisons cette famille détestait-elle autant Joséphine?
Comme je vous disais hier, Joséphine représente pour eux ces femmes d'ancien régime aux mœurs soi-disant légères, et elle n'a jamais été acceptée. Pourquoi Joséphine plus qu'une autre, puisque la femme de Joseph n'a jamais été vilipendée par les autres membres de la famille? Il est vrai que Joséphine avait une aura, elle avait traîné dans les milieux du directoire, il traînait autour d'elle une espèce d'atmosphère quasi malsaine, si nous pouvons parler ainsi. Et ça, on ne lui a jamais pardonné.
Alors ils ont tenté, je viens de le dire, de pousser Napoléon au divorce déjà en 1799, et ils vont revenir à la charge lorsqu'en 1804, Napoléon va devenir empereur et que sa famille, justement, et notamment sa mère Laetitia, essaye d'écarter Joséphine de la cérémonie du couronnement.
Bon, parlons de mon sacre. Ça sera le 2 décembre à Notre-Dame de Paris, avec la bénédiction du pape.
Tu veux faire venir le pape ici?
Je vois que tu as tout prévu. Enfin, presque tout. Parce que devenir empereur, c'est aussi fondir une dynastie.
Bon, ça suffit.
Penses-tu qu'elle m'aurait abandonné si j'avais perdu la partie de l'issue brumaire, si j'avais été jeté en prison ou même exécuté? Non, Lucien. Jamais Joséphine ne m'aurait lâché. Et maintenant que je deviens le maître, je devrais la renvoyer. J'ai décidé qu'elle serait couronnée en même temps que moi. Dès lors, Joséphine ne sera plus seulement ta belle-fille, elle sera aussi l'impératrice. Tu veilleras à t'en souvenir.
Ça ne m'empêchera pas de penser que...
Tu penseras en silence. À deux pas derrière elle.
Thank you.
Et vous entendez un extrait de la messe du Sacre de Napoléon de Basiello, joué à Notre-Dame le 2 décembre 1804, jour donc du couronnement de Napoléon et Joséphine, une cérémonie bien sûr immortalisée aussi par le célèbre tableau de David, où l'on voit Napoléon posant le diadème impérial sur la tête de Joséphine, qui est évidemment le deuxième personnage important. David avait même ajouté la figure de Laetitia, la mère de Napoléon, qui aurait été, n'était pas là. C'est une cérémonie dont vous parlez très longuement. Évidemment, c'est l'apogée, en quelque sorte, de ce destin extraordinaire qui était celui de Joséphine, Bernard Chevalier, impératrice.
C'est son triomphe. Elle avait rajeuni, paraît-il, elle paraissait 25 ans. Et c'est vrai que remontant la nef de Notre-Dame et gravissant les degrés du grand trône qui avait été élevé dans la nef, elle se souvenait peut-être de la prédiction qui lui avait été faite en Martinique. Et elle atteint là vraiment le summum des grandeurs. Elle se croit à l'abri de tout. L'ombre du divorce s'efface devant elle. Et c'est vrai que c'est un moment de triomphe absolument absolu.
Il faut rappeler que c'est la seule souveraine française couronnée et sacrée avec Catherine de Médicis, qui n'était que reine. Hein. Elle est impératrice. Alors une cérémonie aussi avec des petits coups tordus. Je crois que justement la famille était tellement compte que la mère Laetitia n'avait pas voulu venir. Elle était à Rome. Mais que les sœurs qui était chargé de porter la traîne de Joséphine ont tenté de la faire tomber.
C'est ce que l'on dit. On est essayé, en montant le grand trône qui avait été élevé dans le cœur de Notre-Dame, elles ont tenté de tirer en arrière sur la traîne de l'impératrice et qu'il a fallu une force extraordinaire pour ne pas basculer en arrière.
Alors elle, désormais avec cette couronne, elle dispose d'une responsabilité écrasante, soumise aussi à une étiquette imposée par Napoléon, mais presque plus rigoureuse que sous l'Ancien Régime, Bernard Chevalier.
C'est ça qui est étonnant, d'ailleurs, cette femme qui n'a pas du tout été préparée à devenir souveraine s'est glissée dans ses habits d'impératrice avec une aisance extraordinaire. Personne n'y a trouvé à redire. Elle a très vite compris qu'elle succédait à Marie-Antoinette et qu'elle devenait la première dame de France, qu'elle avait un rôle à jouer et qu'elle devait montrer l'exemple.
Et pas seulement de France, d'Europe.
D'Europe aussi,
évidemment.
Oui.
Alors, ça suppose évidemment une maison avec une centaine de personnes qui s'occupent d'elle, Bernard Chevalier, et puis alors des dépenses aussi considérables, et des dettes d'ailleurs que devra honorer Napoléon. Elle ne se refuse rien. D'abord, elle dépense énormément d'argent, même si désormais le lieu enfin où va résider le couple impérial se partage et va devenir surtout le château de Saint-Cloud. À la Malmaison, elle fait des travaux énormes, et notamment, pas seulement à l'intérieur, hein, où il y a des sculptures extraordinaires de Canova et tout, mais aussi à l'extérieur, le jardin. Et là, on découvre une femme qui a une passion pour la botanique. Elle va faire de son jardin vraiment l'annexe. Enfin, jardin très visité parce qu'on y trouve des plantes exotiques venues du monde entier.
Mais c'était une vraie passion et qui a soudain explosé dès qu'elle est devenue la première dame de France et qu'elle a eu les moyens de l'assouvir. C'est vrai qu'elle a fait de Malmaison un jardin, une terre d'expérience, et que près de 200 plantes nouvelles ont fleuri pour la première fois en France à Malmaison. Je citerai le phlox, le camélia, le magnolia yulan. Toutes ces plantes, on ne les connaissait pas avant elle. Et elle a fait construire des serres, dont une immense serre chaude qui a fait l'admiration de toute l'Europe et qui est l'ancêtre de toutes les serres du 19e siècle.
On parle de ces roses aussi.
Alors les roses, c'est un peu une légende. Ça, comme dans la chanson, ça n'est pas la faute à Voltaire ou la faute à Rousseau, c'est la faute à Redouté, qui a publié un livre sur les roses qui a eu tellement de succès au cours du 19e siècle qu'on a attribué les roses à Joséphine. Certes, elle avait une collection de roses très importante, la première d'Europe, mais pour elle, sa collection de roses avait autant d'intérêt que sa collection de pélargonium ou sa collection d'autres types de plantes. Les roses étaient mises dans des pots que l'on sortait au moment de la floraison au mois de mai, et on les rentrait. Il n'y avait pas de roseraies comme on l'entend actuellement.
Collection de roses, collection de vêtements, mais fait visiter à la Malmaison la garde-robe. Alors là, c'était absolument insensé. Vous m'avez dit, par exemple, qu'elle achetait plus de 500 paires de chaussures par an, c'est-à-dire presque deux par jour.
Oui, il fallait changer. Et puis des fois, elle ne les mettait pas tous, si bien que deux fois par an, elle montait dans sa garde-robe faire ce qu'on appelait la réforme. On faisait des lots de vêtements qui, des fois, n'avaient pas été portés, qu'on distribuait dans une loterie. Elle avait un rôle. En tant que première dame quasiment d'Europe, c'était que le commerce de luxe soit au niveau qu'il occupait avant la Révolution française. Donc ça, c'était la mission que Napoléon lui avait confiée. Elle a été au-delà de ce que Napoléon espérait, en dépensant beaucoup. Et il est vrai que la mode, Joséphine ne la suivait pas, mais elle la créait. Et on suivait la mode créée par l'impératrice.
Alors elle tient parfaitement, dites-vous, son rôle d'impératrice. Elle accompagne d'ailleurs Napoléon dans beaucoup de voyages. Elle va le retrouver en Allemagne, elle va en Italie. Je crois qu'elle est
a une passion pour les Alpes. C'est une des premières femmes à avoir gravi, je crois, le glacier du Mont Blanc.
Ça, c'est tout à fait étonnant. Effectivement, après le divorce, elle doit s'occuper parce que le temps est long. Il n'y a plus la vie de cour qui l'entoure. Et elle décide de faire un grand voyage de 3 mois en Suisse et en Savoie. Et elle monte sur la mer de glace. Il n'y avait pas le funiculaire du Mont-en-Vert à l'époque. Donc c'est une caravane de 80 personnes qui monte sur la mer de glace, et c'était tout à fait exceptionnel à l'époque.
Alors en revanche, elle ne suit pas ce Napoléon dans ses campagnes militaires, où d'ailleurs celui-ci la trompe assez allègrement, et notamment en Pologne, où il va rencontrer la comtesse Walewska, mais où surtout il apprend en 1807, par Fouché, un événement qui est apparemment banal, mais qui allait avoir des conséquences considérables.
J'arrive de Paris pour vous remettre ceci.
Avec vous, ce sont toujours terribles nouvelles. Ce n'est qu'un accord d'isée.
Oui, sire. Le ministre de la police porte à la connaissance de sa majesté impériale que le 13 décembre 1806, au 29 rue de la Victoire.
Rue de la Victoire, c'est un nom prédestiné.
Une jeune femme du nom de Louise Catherine Eleanor de Noël a mis au monde un enfant de sexe masculin, né de père inconnu.
Vous ne comprenez pas ?
Elle a mis au monde un enfant de sexe masculin, né de père inconnu. Le père inconnu, mais ça veut dire...
L'empereur. Eh oui, Colincourt. Sa majesté a un enfant.
J'ai un fils.
Oui.
Et merci surtout à Éléonore. Merveilleuse, miraculeuse petite Éléonore. Grâce à qui je suis père.
Et c'était en 1807, Napoléon apprenant qu'il était père pour la première fois, père d'un garçon que lui avait donné une de ses maîtresses, Éléonore de Nuel. Père d'un garçon d'ailleurs qui était appelé Léon, la moitié de Napoléon.
Oui, le comte Léon. D'ailleurs, pendant un certain temps, Napoléon a un peu douté de la paternité parce que la jeune demoiselle partageait également les faveurs de Murat. Donc, il n'était pas très sûr d'être le père. Il l'a reconnu vraiment après. Léon, effectivement, c'est la moitié de Napoléon qui l'a fait comte. Léon, qui était un très mauvais sujet, d'ailleurs, qui a dépensé tout l'argent que Napoléon avait laissé pour qu'il puisse vivre. Et c'était le premier fils sur lequel il pensait.
Là où il est sûr, c'est quand il a un autre fils d'une autre maîtresse qu'il aimait, hein, qui était la comtesse Walewska, rencontrée en Pologne. Alors ce qui compte, c'est pas les enfants qu'il a, ses premiers enfants, Léon peut-être, ce qui deviendra le prince Walewski, futur ministre des Affaires étrangères de Napoléon III. Là, c'est sûr, c'est que il a un enfant. C'est-à-dire que c'est pas lui qui est stérile, c'est Joséphine. Et là, ça change tout.
Il en a la certitude avec la naissance d'Alexandre Walewski. Autant il y avait un doute pour Léon, là il est vraiment certain, et la naissance d'Alexandre Walewski va le déterminer définitivement au divorce.
Alors là, justement, le divorce, pourtant il aime sa femme, hein, c'est un divorce pour épouser un ventre, d'ailleurs il a cette formule abominable, et il épousera justement la fille de l'empereur d'Autriche, Marie-Louise, uniquement pour avoir un enfant, ce sera l'aiglon, mais ça suppose bien sûr un divorce qui est négocié longuement avec Joséphine, évidemment qui prend ça très mal, lui-même aussi, parce qu'il est amoureux d'elle, vous le dites, mais c'est elle qui est chargée d'annoncer elle-même cette séparation en public le 14 décembre 1809 aux Tuileries.
Sa Majesté l'Impératrice.
Avec la permission de notre auguste et cher époux, je dois déclarer que ne conservant aucun espoir d'avoir des enfants qui puissent satisfaire les besoins de sa politique et l'intérêt de la France, je me plais à lui donner la plus grande preuve d'attachement et de dévouement qui ait jamais été donnée sur la terre. Le mariage, désormais, est un obstacle au bien de la France. La dissolution.
Mais la dissolution de mon mariage ne changera rien au sentiment de mon cœur. L'empereur aura toujours en moi sa meilleure amie. Je sais combien cet acte, commandé par la politique et par de si grands intérêts, a froissé son cœur.
Mais l'un et l'autre, nous sommes glorieux du sacrifice que nous faisons au bien de la France.
Et c'était un extrait du Napoléon de Sacha Guitry avec Michel Morgan dans le rôle de Joséphine. Lisons le texte authentique, je l'ai lu dans votre livre Bernard Chevalier, le texte authentique de la déclaration que fait elle-même Joséphine le 14 décembre 1809 aux Tuileries et avec l'émotion. Hein, je crois qu'elle ne pouvait plus parler parce qu'elle était en larmes, c'est quelqu'un d'autre qui a remplacé, qui a lu la fin du texte.
Oui, elle n'a pas pu terminer la lecture du texte qu'elle avait rédigé elle-même d'ailleurs avant. Nous avons le texte original écrit de sa main. Et c'est vrai que ce divorce est un divorce par consentement mutuel. Et il est quand même étonnant de voir que devant la cour assemblée, dans le grand cabinet des Tuileries, Napoléon a déclaré devant tout le monde « Elle a embelli 15 années de ma vie ».
Oui.
C'est une belle phrase qu'on dit le jour où on divorce.
Oui, bah lui-même d'ailleurs était profondément ému, parce que c'est vraiment un divorce pour raison d'État.
Politique.
Politique uniquement, hein. Et alors, un divorce aussi très bien négocié, parce que non seulement c'est elle qui rédige ce texte, mais elle garde le titre d'impératrice. Ça peut paraître étrange, Bernard Chevalier.
Alors, on fait quand même un distinguo, parce que lorsqu'elle était souveraine, on l'appelait Sa Majesté l'impératrice et reine. Et évidemment, Marie-Louise va avoir le même titre qu'elle.
Reine d'Italie, hein,
reine d'Italie, oui. C'est impératrice des Français et reine d'Italie. Mmh. Marie-Louise ayant le même titre, puisqu'elle devient impératrice des Français et reine d'Italie, il faut trouver un autre titre à Joséphine. Donc, désormais, on l'appelle Sa Majesté l'impératrice Joséphine, qui sera son titre après le divorce. Donc, en plus de ce titre qu'elle conserve, elle a à sa disposition le château de Malmaison et toutes les collections qu'il renferme. Napoléon lui donne comme résidence parisienne rien moins que le palais de l'Élysée.
Ah oui ?
Et aussi un château près d'Évreux, à Navarre, pour lui servir un peu de résidence un peu plus lointaine de Paris, en semi-exil.
Et des revenus considérables.
Des revenus considérables, puisque Napoléon lui a laissé environ 3 millions par an. Alors, pour vous donner une échelle de valeur, un jardinier gagnait à peu près 600 francs par an à l'époque. Donc, avec 3 millions, on peut déjà voir l'avenir sans trop s'inquiéter.
Et elle trouvait quand même le moyen de continuer à faire des dettes.
Mais oui, elle dépensait sans faire attention. Elle croyait toujours être à jour de ses dettes, ne déclarait généralement que la moitié qui était payée par Napoléon. Et ça a duré comme ça jusqu'à la fin.
Ce qu'il y a d'extraordinaire, Bernard Chevalier, aussi, c'est les rapports que gardent Napoléon et Joséphine. D'abord, je crois qu'elle se réjouit à l'annonce de la naissance du fils légitime, cette fois-ci, de Napoléon et de Marie-Louise, de celle qui lui a succédé, l'Aiglon.
Non seulement elle se réjouit, mais elle est à Navarre à ce moment-là, près d'Évreux, elle donne un grand bal pour célébrer la naissance du roi de Rome. Et elle essaiera, elle parviendra à le faire une fois, à voir l'enfant. C'est Madame de Montesquieu, la gouvernante du jeune prince, qui la lui amènera un jour dans les jardins de Bagatelle.
C'est pas d'ailleurs le seul enfant qu'elle voit, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent. Il y a d'abord ses petits-enfants.
Ses petits-enfants-là. Joséphine est une grand-mère exemplaire. Quand l'âge arrive, elle est très proche des enfants d'Hortense. Les enfants d'Eugène... De sa fille Hortense. Les enfants de son fils Eugène, elle ne les verra qu'une fois à Milan en 1812. Mais les deux enfants survivants d'Hortense viennent passer toutes leurs vacances auprès de leur grand-mère à Malmaison. Et le cadet sera un jour Napoléon III, viendra jusqu'à l'âge de 6 ans chez sa grand-mère.
Vous me dites que pour lui, pour l'amuser, elle avait fait venir, je crois, un éléphant savant à la
maison.
Tout
à fait. Alors, on le sait par les lettres que Joséphine écrivait à Hortense quand elle gardait des petits-enfants. Donc, un jour, on fait venir des jouets et différentes distractions. Et l'éléphant savant arrive un jour pour amuser le petit garçon. Et la lettre est très drôle car Joséphine écrit le lendemain à Hortense « Ton petit garçon s'est bien amusé, mais l'éléphant a gâté mon gazon ».
Alors, parmi les visiteurs qui viennent la voir, il y a toujours Napoléon, et notamment à l'occasion de cette dernière visite que Napoléon fait à Joséphine à la même maison, c'était juste avant de partir en Russie.
C'est l'empereur, votre Altesse, c'est l'empereur.
Tu aurais pu prévenir.
Non, ne m'embrasse pas. Je te demande de me regarder. Je suis sale, affreuse et attifée comme une paysanne.
Tu peux même dire une pauvre paysanne. Une fois de plus, tu t'es endettée jusqu'au cou. Je t'ai pourtant accordé une rente de 5 millions de francs par an. Qu'est-ce que tu fais de tout cet argent, Joséphine ?
Je le dépense. Ce n'est pas ça qui te donne cet air si grave que tu as aujourd'hui. De quoi es-tu vraiment venu me parler ?
De la guerre. Le tsar fait peser une menace intolérable sur la Pologne.
Écoute-moi. Écoute ta vieille amie. Ne va pas en Russie. J'ai fait des rêves à ton sujet, des mauvais rêves. Je suis créole, ne l'oublie pas. Et chez nous, dans les îles, on croit à ce genre de présage.
Je trouve que ton jardin est très beau. Surtout pour le mois d'avril.
C'est toujours un extrait du téléfilm d'Yves Simoneau, la dernière rencontre, je crois, entre Napoléon qui vient voir Joséphine avant de partir en Russie. Ils ne se sont jamais plus revus après.
Ils ne se sont plus revus, et dès que Joséphine a appris les premiers revers de l'armée française, plutôt que de voyager comme elle avait fait auparavant, après le divorce, elle s'est véritablement terrée à Malmaison, sans en sortir, attendant les nouvelles, jour après jour, jusqu'à la fin, jusqu'à l'abdication de Fontainebleau.
Des nouvelles de Russie, d'autant plus que son fils Eugène s'y trouve aussi.
Son fils y était, elle était très inquiète des événements, de savoir si son fils allait mourir ou pas.
Ce qui est très curieux quand même, c'est qu'on sait ce qui s'est passé en Russie, la débâcle que ça a pu être, et c'est que en 1814, quand les Russes, après cet désastre de Russie et puis l'échec de la campagne de France, quand les Russes arrivent, Joséphine reçoit-elle à la Malmaison, l'empereur de Russie lui-même, le tsar, celui qui vient de battre les Français?
Le tsar voulait battre Napoléon, il n'en voulait pas à la France. Et c'est vrai que Napoléon lui-même avait dit à ses maréchaux, désormais il fallait servir le nouveau souverain, Louis XVIII. Donc il n'y a pas de trahison comme on l'entend actuellement au XXIe siècle. Et Joséphine, qui s'était enfuie à Navarre, était rappelée à Malmaison par le souverain lui-même, par l'autocrate. Et elle a rencontré Alexandre, l'a présenté à ses enfants, et une véritable amitié, presque amoureuse, a lié Hortense et le tsar et Joséphine. Et le tsar passait tous les jours à Malmaison.
Et ça, c'était quelques jours à peine, deux semaines, je crois, à peine, avant la mort vraiment très, très brutale, très rapide, je crois que c'est une angine de poitrine, de Joséphine, morte si vite d'ailleurs qu'on a pensé à un assassinat.
Oui, ça c'est toujours le cas des morts subites. Mais c'est vrai qu'elle était très usée, les événements l'avaient beaucoup fatiguée, et cette angine infectieuse qui l'a assaillie, eh bien, elle n'a pas lutté contre, et elle a disparu en quelques jours.
Et c'était la fin d'une souveraine répudiée par Napoléon parce qu'elle n'avait pas pu lui faire d'enfant, alors que par ses deux enfants de son premier mariage, par Eugène, par Hortense, elle est, c'est ce qu'on dit aussi de la reine Victoria, la grand-mère de l'Europe. Il y a des quantités de souverains. D'abord, il y a tout simplement son petit-fils par le mariage de sa fille Hortense avec le frère Napoléon, avec Louis, c'est le petit-fils, Napoléon III, qui gouvernera la France. Mais il y a tous les souverains, enfin beaucoup de souverains de l'Europe actuelle qui descendent de Joséphine, Bernard Chevalier.
Eh bien, par Eugène, c'est vrai qu'énormément de souverains descendent de Joséphine. Je citerai par exemple le roi de Suède, la reine de Danemark, le roi de Norvège, la reine des Hellènes, c'est-à-dire la reine de Grèce. Je citerai également le roi des Belges et le grand-duc de Luxembourg, et là je peux me permettre de rappeler que le grand-duc de Luxembourg appartient à la famille de Bourbon-Parme, donc il y a maintenant des Bourbons qui descendent de Joséphine.
C'est extraordinaire, hein. Et sa présence aujourd'hui, sa place d'abord dans notre histoire, parce que il y avait un monde fou le jour de ces obsèques, mais je crois que c'est vous qui organisez cette messe dont je parlais au début de l'émission, qui se fait tous les ans à Rueil.
Oui, mais
c'est là qu'elle est d'ailleurs enterrée, je crois.
Elle est enterrée dans l'église de Rueil, et elle a laissé auprès des Français l'image d'une souveraine bonne, généreuse, et c'est vrai que si Marie-Louise jouit plutôt d'un préjugé néfaste. Joséphine, elle, est l'impératrice qui est restée dans le cœur des Français.
Merci Bernard Chevalier. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur avec Christophe Pincemaille de L'impératrice Joséphine, publié chez Payot, et également chez Payot de Douce et incomparable Joséphine, qui vient d'être réédité. À lire également sur le sujet L'impératrice Joséphine de Françoise Wagener, réédité chez Perrin dans la collection Timpus, et puis également La correspondance de Joséphine chez Payot. Vous avez pu entendre des extraits du Napoléon, le téléfilm de France 2 d'Yves Simonneau avec Christian Clavier, qu'on a entendu dans le rôle titre, et Isabella Rossellini, ensuite Joséphine, et enfin Napoléon de Sacha Guitry, disponible en DVD chez René Château Vidéo. Ces références sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Philippe Duclos, Camille Pouget-Laguier à la documentation, ainsi que Claire Tesser, et l'impératrice de 2000 ans d'histoire à la réalisation, Anne Comilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, deux jours avant l'anniversaire du 11 septembre, Al-Qaïda, quatre ans après. Il est 14h30, vous êtes sur France Inter et vous y restez bien sûr pour écouter Musique Express. Eric Oswald, bonjour.
Bonjour Patrice Violine.